1934, très exactement, le Conseil national de la résistance de l'époque a publié un programme. Il comportait ce qui s'appelait un programme d'action immédiate, mais aussi un programme pour la suite, c'est-à-dire pour la période qui suivrait la libération.
C'est ça, la libération, mais aussi prévoir l'après.
Exactement. Il fallait d'abord se libérer pour pouvoir faire autre chose. Et l'une des caractéristiques de cette période est que elle comportait la volonté de la libération, y compris la volonté de l'insurrection nationale, mais elle comportait aussi la prévision de l'organisation politique et sociale du pays. Et c'est en ça que le programme de l'époque est un programme qui a son actualité, parce que personne ne met en question la nécessité de remettre l'organisation sociale et l'organisation politique sur des rails qui ne sont pas parfaitement en état.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, le programme national de la résistance.
Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris.
C'est aujourd'hui le moment. Du combat.
Tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont fait le voyage sans retour, ne sont point morts pour que reblanchissent les sépulcres. Toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent répondre et comprendre que leur devoir n'est pas fini, que les puissances d'argent sont toujours là, que les influences étrangères guettent la France de toutes parts et qu'il nous faut travailler, encore travailler, durement et longtemps pour la libération de l'homme et d'abord pour libérer la démocratie de tout ce qui l'entrave. Ranimer les énergies, rappeler les devoirs aux consciences endormies, redire qu'après cette guerre effroyable et cette nuit profonde, le devoir commande de lutter encore. Le rassemblement que constitue l'Union démocratique et socialiste de la résistance n'a pas d'autre sens. Lutter, encore lutter pour la liberté.
Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne, sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité.
Sur la place de l'Étoile, le jour de la rentrée de la colonne Leclerc dans la ville. Sur l'Arc de Triomphe, un immense drapeau tricolore. Des soldats passent dans leurs camions, dans des tractions. Des gars des FFI passent, assis sur les ailes, la mitraillette au poing. Une foule immense couvre toute la place. Tout à l'heure, on chantait la Marseillaise, ça va recommencer. Ça fuse tout le temps, toute la journée, tandis que les troupes de Leclerc passent dans leurs camions. Il y a là des Algériens, des Marocains, il y a là des marins avec leurs bérets dans les tentes, et il y a là beaucoup de Parisiens, des Bretons, des Lorrains, des gens de tous les coins de la France qui, dans l'armée Leclerc, en Angleterre, en Italie, se sont battus pour la cause de la liberté et qui aujourd'hui défilent dans Paris, capitale de la liberté.
Aussi les représentants des organisations de la résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupées au sein du CNR, délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s'unir sur le programme suivant, qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer